بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. دونك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله a dit dans son livre intitulé Péché et guérison, chapitre 25, les châtiments liés au péché. Les châtiments liés au péché. Parmi les châtiments qu'entraînent les péchés, ce que rapporte Samurat ibn Jundub, radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demandait souvent à ses compagnons, l'un d'entre vous a-t-il fait un songe, c'est-à-dire un rêve? On lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Et là, on voit l'importance que le prophète, alayhi salatu wassalam, accordait au rêve. Et en particulier les rêves faits de bon matin, soit avant la prière du Fajr, ou soit après la prière du Fajr. Non. On lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Et il nous raconta un jour, deux visiteurs sont venus à moi cette nuit et me dirent, en route. Je suis donc parti avec eux et nous sommes arrivés près d'un homme allongé à côté duquel se tenait un homme debout tenant un rocher. Ce dernier jetait le rocher sur la tête du premier qui se fracassait. Alors que le rocher roulait d'un côté ou d'un autre côté, l'homme debout suivait le rocher, le ramassait et ne revenait pas à sa place sans que la tête n'ait retrouvé sa forme initiale. Il revenait alors et recommençait ce qu'il avait fait la première fois. Je leur dis, gloire à Allah, c'est-à-dire Subhanallah. Qu'est-ce cela? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme allongé sur le dos, tandis qu'un autre était debout à côté de lui avec un crochet en fer. Il se plaçait d'un côté de son visage et lui arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque, l'œil jusqu'à la nuque. Puis il passait de l'autre côté et agissait de même que pour la première moitié du visage. Il n'en finissait pas de ce second côté que le premier avait retrouvé sa forme initiale. Puis il y revenait et agissait de même que pour la première fois. Je dis Subhanallah, qui sont ces deux-là? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés devant une sorte de four. Il me semble qu'il a dit, il montait de ce four des bruits confus et des voix. Nous avons regardé à l'intérieur et nous y avons vu des hommes et des femmes nus. Une flamme leur venait d'en dessous et lorsque cette flamme les touchait, ils hurlaient. Je dis, qui sont-ils? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un fleuve. Il me semble qu'il dit qu'il était rouge comme le sang. Il y avait dans ce fleuve un homme qui nageait et sur la rive un homme qui avait près de lui une multitude de pierres. Le nageur arrivait vers lui, ouvrait la bouche et l'autre lui faisait avaler une pierre. Ensuite, le nageur repartait, puis il revenait vers lui. Chaque fois qu'il se représentait, l'homme de la rive lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler une pierre. Je leur dis, qui sont ces deux-là? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un homme à l'aspect hideux, ou à l'aspect le plus terrifiant que tu n'aies jamais vu. Il avait près de lui un feu qu'il attisait autour duquel ils tournaient. Je leur dis, qu'est-ce que cela? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un jardin à la végétation abondante et plein de toutes sortes de fleurs de printemps. Au milieu de ce jardin se tenait un homme très grand. Je pouvais à peine voir sa tête tellement il était haut dans le ciel. Il y avait autour de lui plus d'enfants que j'en ai jamais vu. Je dis, qui est cet homme? Qui sont ses enfants? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un grand arbre. Je n'en avais jamais vu d'aussi haut ni d'aussi beau. Ils me dirent, grimpe sur cet arbre. Nous avons donc grimpé et nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques, d'or et d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes à entrer. Et on nous ouvrit. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié était d'une beauté jamais vue et l'autre d'une laideur exceptionnelle. Les deux hommes leur dirent « Allez vous jeter dans cette rivière. » C'était une rivière dont l'eau coulait, blanche comme le lait. Ils y plongèrent puis revinrent à nous et leur laideur avait disparu. Et ils apparurent dans une grande beauté. Ils me dirent, voici le jardin d'Éden, et là-bas se trouve ta demeure. Je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent, voilà ta demeure. Je leur dis, que la bénédiction d'Allah soit sur vous, laissez-moi y entrer. Ils me dirent, maintenant non, mais tu y entreras. Et ça, c'est une bichara azim. C'est une bichara d'Allah Azza wa Jal. C'est une bonne annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à son prophète à travers ces deux anges. Hein, lorsque ces deux anges disent à Mohammed, tu ne peux pas rentrer actuellement, mais tu y entreras. Ça, c'est une très très grande bonne annonce. Au même titre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى » يعني, comme dans surat Duha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala promet à son messager que il va se voir bénéficier de dons d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont l'agréer, qui vont apaiser une envie d'autre chose, c'est-à-dire les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservés pour l'au-delà. Maintenant non, mais tu y entreras. Je leur dis, cette nuit j'ai vu des choses étranges. Quelle est la signification de ce que j'ai vu? Ils me dirent, nous allons t'expliquer. Le premier homme auprès de qui tu es passé et dont on fendait le crâne avec un rocher est un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas, et dormait lors de la prière obligatoire. Deux choses. Il apprend le Coran et il ne l'applique pas. Wa kam natkhul fi hadha al-wasf. Combien sommes-nous à entrer dans ce descriptif? Le fait de connaître du Coran ou une partie du Coran. C'est pas une obligation que tu connaisses tout le Coran, mais ne serait-ce qu'une partie, tu te dois de le mettre en pratique. Et ça, malheureusement, comme le prophète sallam le dit lui-même, al-Quran hujjatun laka aw alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi yawm al-qiyam. C'est une preuve pour toi si tu œuvres avec, et c'est une preuve contre toi si jamais tu le délaisses. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il s'est plaint de sa communauté, en disant, comme c'est évoqué dans le Coran, lorsqu'il dit, oh Seigneur, mon peuple a jeté ce Coran derrière le dos, ou a délaissé les préceptes de ce Coran. Donc c'est très très grave. C'est très très grave. C'est vraiment très grave de madame. C'est vraiment très grave qu'il y ait d'application du Coran et que il soit délaissé, c'est-à-dire en termes d'application. Et le fait de dormir, durant une prière obligatoire, ça c'est pour celui qui le fait volontairement. C'est-à-dire, soit il ne se prépare pas pour la prière du matin comme il se doit, c'est-à-dire il passe la nuit à veiller sans prendre le repos nécessaire, ou soit la prière elle vient et lui il choisit délibérément de s'endormir, d'aller au lit. Ça c'est formellement interdit. Et ça rentre dans cette grande menace évoquée dans le hadith. Mais pour celui qui dort naturellement et qui, sans le vouloir, manque la prière, alors lui, nul grief. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man nama an salatin aw nasiyaha, fal yusalliha idha dhakaraha. La kaffaratu lahu illa dhalak. » Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Celui qui dort en ayant oublié de faire la prière, ou celui qui oublie de faire la prière, qu'il la prie lorsqu'il s'en rappelle. » Et il n'y a nulle autre expiation à faire en dehors de cela. Donc ça, c'est pour celui qui dort involontairement. C'est-à-dire qui loupe la prière par un sommeil plus ou moins profond, mais d'une manière involontaire. Voilà. Donc ça, c'est la première personne qui l'a croisée. La deuxième, l'homme auprès duquel tu es passé, l'homme auprès duquel tu es passé et à qui l'on a arraché la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque, l'œil jusqu'à la nuque, est un homme qui sortait de chez lui, porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre des contrées éloignées. Et ça, à notre époque, c'est extrêmement facile que de mentir de la sorte. C'est-à-dire de mentir d'un mensonge qui peut atteindre toutes les contrées de la Terre. Avec les réseaux sociaux, c'est très rapide. Et là, on voit encore la dangerosité du mensonge. La dangerosité du mensonge. Ensuite, il dit, les hommes et les femmes nus dans cette construction ressemblant à un four sont les fornicateurs et les fornicatrices. Le nageur auquel on faisait avaler des pierres et celui qui consomme et le nageur auquel on faisait avaler des pierres est celui qui consomme de l'usure, c'est-à-dire le riba. Et l'homme à l'aspect hideux près du feu qui l'attisait et autour duquel il tournait est Malik, le gardien de l'enfer. L'homme très grand dans le jardin est Ibrahim. Et les enfants autour de lui sont tous les enfants morts sur la saine nature, et dans une formulation de Al-Barqani, nés sur la saine nature. Un musulman dit, ô messager d'Allah, qu'en est-il des enfants des polythéistes? Le prophète alayhi salatu wasalam a répondu, on y trouve également les enfants des polythéistes. Quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, ce sont des gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et les péchés. Et Allah leur a pardonné. Subhanallah. Donc c'est un très très long hadith, plein de fawa'id, plein de leçons à tirer, plein de préceptes qu'on n'a pas jugé bon d'évoquer pour pas allonger la longueur du cours, et puis c'est pas le but. Il y a encore plein d'autres hadiths qui nous attendent. Donc en tout cas, comme l'a évoqué l'imam Ibn al-Qayyim, c'est un très beau rappel, ce hadith, qui nous montre combien est grande et combien la gravité des péchés doit être pris en considération pour tout pécheur que nous sommes. Pour tout pécheur que nous sommes, il faut savoir qu'on aura une rencontre avec Allah Azza wa Jal et qu'on aura un jugement, comme a dit Omar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Yani, rendez-vous des comptes, analysez-vous, faites-vous une analyse concrète de vous-même avant que vous soyez jugé, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interroge. Allah al-musta'an. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.